Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Olivier Vial. Bonjour Olivier Vial.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du CERU. Alors, le CERU, c'est un laboratoire d'idées indépendants à but non lucratif qui s'appuie sur l'expertise d'universitaires pour éclairer sur l'actualité, travailler sur les défis politiques, géopolitiques, sociétaux aussi, et là c'est vraiment d'actualité, tout ce qui concerne notre jeunesse et voir comment notre jeunesse évolue au fil du temps. La première question que je voulais vous poser, Olivier Vial, peu importe sa génération, dans toutes les générations, on s'est toujours interrogé sur la jeunesse. La jeunesse n'est plus comme avant. La jeunesse se radicalise. Il y a des blocs. Il y a toujours eu finalement trois blocs, j'ai le sentiment, dans la jeunesse. C'est-à-dire un bloc un peu plus à droite, très militant, qui après, au fur et à mesure de la sagesse, rentre dans le rang, et puis c'est tout. Certains restent aussi très, très à droite. Un bloc très, très à gauche, qu'on entend beaucoup, ceux qui ont fait mai 68, par exemple. Et puis un bloc du milieu. À l'époque de 68, ce bloc du milieu, on va dire, soutenait le général de Gaulle et était dans la majorité. Voilà. Aujourd'hui, ils sont plutôt macronistes. Est-ce qu'on est toujours dans le même paysage? Ou est-ce que vous observez qu'il y a une évolution, là?
Il y a eu une évolution, notamment parce qu'en fait, ce que vous décrivez, c'était vrai effectivement dans les années 70, les années 80. Et puis, on a vu arriver petit à petit, et ça a été très vrai au début des années 2000, une homogénéisation, en fait. Et on voyait qu'en fait, les jeunes étaient différents, mais ils étaient de plus en plus proches politiquement de leurs parents. Et en fait, c'était devenu le vote jeune était moins une question finalement importante puisque on voyait qu'ils étaient en train de se rapprocher des valeurs de leurs parents. Je me rappelle moi-même avoir fait une étude en 2007 qui s'appelait « La jeunesse est plus qu'elle était, tant mieux », où on montrait justement qu'il y avait eu de vraies évolutions sur la capacité des jeunes, par exemple, à plébisciter l'autorité, à considérer, par exemple, que l'armée était la première institution dans laquelle ils croyaient, etc. Et ça, c'était vrai en 2007. Et depuis cette période-là, on a eu un nouveau mouvement extrêmement fort et qui a vraiment bouleverser tout ça. Ce mouvement fait qu'aujourd'hui, on retrouve un petit peu effectivement ce qu'on a connu dans les années 70, c'est-à-dire avec un clivage très fort générationnel. On a des points communs, il y a des choses qui ont évolué, par exemple sur la question de l'immigration, aujourd'hui les jeunes et de la sécurité, les jeunes sont moins à gauche, entre guillemets, que ce que pouvaient être leurs parents à leur âge. Mais ça ne veut pas dire, et pendant très longtemps, en regardant ce seul marqueur, on s'est dit qu'effectivement, il y avait une droitisation de la jeunesse. En réalité, non. Sur quelques marqueurs comme ça, effectivement, c'est devenu des sujets beaucoup plus consensuels. Et donc, le fait de vouloir contrôler l'immigration, le rejet de l'insécurité, c'est quelque chose effectivement qui touche aujourd'hui aussi de façon importante les jeunes. Mais par contre, on voit que sur d'autres critères, il y a des clivages très importants qui sont nés. Par exemple, sur l'islam et sur la laïcité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un clivage énorme entre les plus de 50 ans et les moins de 25. Le voile, par exemple, à l'université ou le voile à l'école est aujourd'hui rejeté par plus de 80% des plus de 50 ans, et il est accepté par plus de 56% des personnes de moins de 25 ans. Ce clivage-là, il est très fort, et on le retrouve aussi sur d'autres sujets. Sur l'écologie, on voit aujourd'hui qu'il y a des différences très fortes sur la manière d'appréhender les questions climatiques, et sur tous ces sujets-là, on voit petit à petit, effectivement, un divorce se passait entre les générations, et c'est quelque chose qui, finalement, n'est pas nouveau dans l'histoire, puisqu'effectivement ça a déjà existé, mais qui est quand même une rupture par rapport à la tendance qu'on avait constatée depuis les années 2000.
Alors, je vais prendre un exemple comme celui de l'immigration. Il y a eu une grande époque, SOS Racisme. Les jeunes, à l'époque, 18 ans, entre 16 et 25 ans, et on disait que c'était tous à SOS Racisme dans les années 90. Hein, c'était l'époque où on chantait, où ils chantaient Douce France, par exemple, voilà, pour lutter contre le racisme. Je ne parle pas de Douce France de Charles Trenet, hein, je parle de l'autre. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces mêmes jeunes qui avaient 25 ans à l'époque, aujourd'hui, ils ont 40 ans, 45 ans, et ils se sont plus droitisés. Certains qui votent RN, par exemple. Est-ce qu'on peut penser que ce sera la même chose et que c'est simplement une passade du temps, où il est difficile aussi de répondre à cette question, ou est-ce que c'est vraiment un marqueur sur le temps alors ?
C'est très difficile, c'est surtout très difficile selon les thématiques. Il y a effectivement ce phénomène-là qu'on constate très souvent, hein, c'est-à-dire que certaines thématiques, effectivement, on y est plus sensible et on a une approche plus radicale quand on est jeune et on est moins sensible quand on est plus âgé. L'exemple qu'on donne souvent, hein, c'est la question de l'impôt et du poids des impôts. Le poids des impôts pour quelqu'un qui n'en paye pas encore, c'est pas une question majeure, ça le devient effectivement avec l'âge parce que la question se pose. Et donc ça, effectivement, c'est des choses qui peuvent évoluer. Malgré tout, il y a quand même des évolutions quasi culturelles. La question de l'identité, telle qu'elle a été marquée, là aussi, avec une évolution. Au début, la question de l'identité, c'était une question qui était marquée essentiellement à droite, voire à l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est une question qui est majoritairement une question de gauche et d'extrême gauche. Et donc la définition de l'identité chez les jeunes, elle est aujourd'hui primordiale pour eux, et avec des façons de la définir qui sont très différentes de ce que leurs parents pouvaient faire. C'est aujourd'hui la question, on se définit par rapport à son genre, et son genre, il est très inventif, parce que c'est plus simplement masculin ou féminin, ça peut être plein de genres différents, c'est le transgenre, c'est gender fluid, il y a plein de choses différentes, donc il y a plein d'identités liées au genre, il y a plein d'identités possibles liées à la sexualité. Aujourd'hui, c'est très fréquent de trouver des jeunes qui se définissent comme polyamoureux, des choses dont on n'entendait pas parler avant, et qui aujourd'hui sont des choses qui sont pour eux quotidien. Et donc on a effectivement une façon de se définir par rapport à son genre, par rapport à sa sexualité, de façon beaucoup plus large, par rapport à son rapport au travail qui a beaucoup évolué, et par rapport effectivement à son rapport à l'avenir et notamment à l'écologie. Là, il y a une vraie fracture, une vraie cassure, puisque alors ça ne concerne pas toute la jeunesse, mais on a une partie non négligeable de la jeunesse, environ, d'après la dernière étude qui est sortie, environ 25% des jeunes qui sont dans une logique réellement catastrophiste, c'est-à-dire qui sont convaincus qu'à très court terme, la planète ne pourra plus supporter les catastrophes qui arrivent, et donc ils se radicalisent énormément, pensant être dans une forme de légitime défense de leur génération par rapport aux générations précédentes qui auraient été responsables des catastrophes qui arrivent. Et donc ça, c'est un marqueur qui risque malheureusement de durer, parce que ça change y compris leur rapport à la consommation, leur rapport à la vie de famille. On a des jeunes aujourd'hui qui, alors ils sont extrêmement minoritaires, mais on a des jeunes qui aujourd'hui prennent l'engagement de ne pas avoir d'enfants. C'est un mouvement qui s'appelle les Jink, qui est de plus en plus important, qui arrive aux États-Unis, mais qui depuis 2010 se développe considérablement en France, et notamment chez les plus jeunes. Ça devient un problème même de santé. On a des jeunes filles qui veulent, à 20 ans, se faire ligaturer les trompes pour justement ne pas prendre le risque de faire des enfants dans un monde qu'elles jugent comme bientôt fini. Donc ça, effectivement, tout ça, c'est des choses qui vont considérablement changer le rapport de la jeunesse et de ces générations-là avec leurs aînés. Et il y a un vrai risque, effectivement, aujourd'hui de confrontation, ou en tout cas de séparatisme plutôt que de confrontation. Le risque, c'est que petit à petit, on ne se comprenne plus du tout et qu'il y ait deux mondes parallèles qui cohabitent les uns à côté des autres.
Oui, c'est déjà presque le cas, hein, sur de nombreux sujets, Olivier Vial. C'est passionnant ce que vous nous expliquez. Quels sont les sujets qui vous inquiètent le plus, là ? Par exemple, on va travailler sur la rentrée.
Aujourd'hui, effectivement, alors on a la question de l'écriture inclusive, parce qu'elle a été, c'est quelque chose qui est un cas d'école. L'écriture inclusive, la première fois que nous on en parle et qu'on alerte les Français sur ces questions-là, c'était en 2012. Et à l'époque, tout le monde nous disait que ça n'arriverait jamais en France, que c'était une sorte de fantaisie anglo-saxonne. Aujourd'hui, force est de constater que ça commence à être très développé en France. Les universités l'utilisent massivement. On a encore le cas récemment d'une charte qui a été adoptée par l'université de Clermont-Ferrand qui impose une version très extensive de l'écriture inclusive. On a de plus en plus d'entreprises qui sont bousculées par l'écriture inclusive parce que à l'intérieur de leur communication interne, il y a des champs qui revendiquent le fait d'écrire en écriture inclusive. On a même certaines publicités qui commencent à être écrites en écriture inclusive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, l'écriture inclusive, c'est avant tout un projet politique. C'est un projet qui a été né dans les années 70, qui consiste effectivement à bouleverser notre représentation de la société en modifiant le langage. Et ça ne s'arrête pas. Les Français, de façon un peu trop optimiste, pensent que l'écriture inclusive, c'est simplement ce qu'on appelle le point médian. C'est de rajouter à la fin d'un mot point E, point ES, etc. En réalité, c'est un projet beaucoup plus global et on voit effectivement déjà que le point médian pour eux, pour les militants de l'écriture inclusive, c'est déjà quelque chose qu'ils ont en partie gagné et ils sont en train de passer à la phase 2. Et en fait, il faut comprendre...
Ça veut dire qu'on est habitué visuellement, intellectuellement, à avoir le point E, là.
Voilà. Et donc, et du coup, ils commencent à créer des mots neutres. On vous rappelait, il y a eu une polémique il y a quelques mois sur la création du pronom « iel », qui en gros est un pronom neutre pour qui vise à être utilisé pour des gens dont on n'est pas sûr de l'identité, c'est-à-dire que normalement effectivement il y a 20 ans quand vous aviez quelqu'un en face de vous, il suffisait de le voir physiquement pour déterminer quel était son genre, si c'était un homme ou une femme. Aujourd'hui, puisque le genre, et c'est une des revendications fortes de ces mouvements identitaires, est d'abord déclaratif, avant de pouvoir dire « il » à quelqu'un qu'on a en face de soi, il faut qu'on soit sûr que cette personne se revendique comme un homme. Et donc, il faut qu'on lui pose la question. Et si on ne lui a pas posé la question, on devrait être, si on ne veut pas commettre le crime, et quand je dis crime, c'est malheureusement devenu considéré par certains comme un harcèlement. Si on ne veut pas commettre le crime de mégenrer quelqu'un, c'est-à-dire de lui attribuer le genre qu'il ne revendique pas, et ben il faudrait utiliser un pronom neutre jusqu'au moment où il nous dit quel est le pronom qu'il veut. Et vous avez déjà, cette chose-là se développe très vite. Vous avez pas mal de plateformes, LinkedIn par exemple, LinkedIn oblige pas mal de gens, quoi, en tout cas offre la possibilité à pas mal de gens de dire quel est son prénom et son pronom. Et ça existe aussi, moi j'ai assisté à des auditions au Sénat où certaines organisations, dans les petits badges qu'ils ont devant eux pour montrer leur nom, mettent leur nom, leur prénom et leur pronom. Vous avez Albert, il ou Albert, elle. Comme ça, ça te permet de savoir comment on doit s'adresser. Et ça fait partie de l'écriture inclusive et ça se développe. Et donc, il y a eu le mot IEL qui a commencé. Et puis, c'est que le début encore. On a aujourd'hui ce qu'on appelle la grammaire queer, qui est enseignée à la Sorbonne, qui vise en gros à neutraliser. Et là aussi, ça peut être presque amusant. C'est que les militants de l'écriture inclusive, au début, nous ont dit que c'était un moyen de rendre plus visibles les femmes dans la langue où on prétendait que les femmes avaient été invisibilisées par des règles qui auraient été machistes et qui auraient été inventées notamment par Vaugelas. Ce qui historiquement n'est pas vrai, mais qui a été qui est en gros une fake histoire qui a été très répandue. Et effectivement, ça s'est développé avec cette volonté en gros de rendre plus visibles les femmes. Or aujourd'hui, c'est le contraire qui va se passer, puisque maintenant l'objectif c'est de rendre la langue neutre et qu'il n'y ait plus du tout de différence entre hommes et femmes dans la langue. Et on a, avec le développement de la queer grammaire, la volonté de créer des mots qui sont totalement neutres. Par exemple, certains, le pronom certain, au masculin c'est certain, au féminin c'est certaine, et aujourd'hui, dans la grammaire queer, qui est revendiquée et qui est enseignée par une enseignante à la Sorbonne, on va utiliser le mot certain. D'accord. Certain, ça veut dire, et on va remplacer certains et certaines par certains, et ainsi de suite pour plein de mots. Français, par exemple, français, française, ça va être remplacé par français, avec un X à la fin.
Ça va avoir un choc culturel, cher Olivier Vial. Moi, je vais vous dire,
il va y avoir un choc culturel.
Dans un pays arabe ou dans un pays africain, vous avez un arabe ou un africain en face de vous et disait « Bonjour, comment dois-je vous appeler, monsieur ou bien madame ?» Vous vous ramassez, je vous dis franchement, un point sur la gueule. Je parlais franchement.
Oui, mais effectivement, c'est choc culturel peut-être, mais en tout cas, il se développe très rapidement. En France, il est de plus en plus accepté. Vous savez qu'il y a une circulaire qui a été faite par le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, il y a 2 ans, qui demande aux enseignants d'appeler les enfants par le pronom et par le prénom qu'ils choisissent, sans avoir besoin de passer par l'état civil. Donc de pouvoir changer de prénom et de pronom. Ça, c'est déjà prévu dans l'éducation nationale en France. Donc c'est des choses qui vont très très vite, et ça, effectivement, il faut comprendre que quand on parle d'écriture inclusive, on parle de tout ça. On parle pas simplement du point ES qui pourrait presque paraître comme un gadget, mais on parle de cette volonté de rendre la langue totalement neutre et de changer totalement nos règles. C'est aussi l'écriture inclusive, c'est aussi le changement de règles de grammaire. C'est la suppression, c'est la règle de proximité qui fait que on va accorder comme on le souhaite les adjectifs. Ça peut être la règle de proximité, ça peut être la règle. Certains établissements, il y a une université qui a décidé d'employer la règle du féminin l'emporte sur le masculin pour renverser la vapeur, soi-disant. Et donc tous les adjectifs sont accordés au féminin. Tout ça, effectivement, ça fait que petit à petit, la langue n'est plus une langue commune. Elle devient très idéologisée, et en fonction de la façon dont vous parlez, bah, finalement, vous vous exposez à des critiques, à afficher une forme d'idéologie, et ça crée là aussi un vrai problème dans l'espace public. Ça rend l'espace public beaucoup plus conflictuel. Parce qu'effectivement, vous avez, même sur des choses toutes bêtes, comme saluer quelqu'un, vous avez politisé par l'écriture inclusive cet acte simplement de civilité. Et ça, effectivement, c'est un vrai souci. Et je pense qu'on ne s'en aperçoit pas beaucoup. On a l'impression très souvent que c'est des choses qui sont anodines. Mais en réalité, ça bouleverse beaucoup de notre art de vivre et de notre façon tout simplement de pouvoir discuter, se rencontrer, échanger. Dès lors que ne serait-ce que saluer quelqu'un devient un acte politique et qu'on peut être critiqué parce qu'on ne salue pas de la bonne façon, ça pose des problèmes, à mon avis, assez conséquents et des problèmes en cascade derrière. Et ça, je sais, parce que malheureusement, on a cette expérience, parce que ça fait nous plus de 10 ans maintenant qu'on travaille sur ces sujets-là, que quand on dit ça, quand vos lecteurs, vos auditeurs entendront ça, ils auront l'impression de dire « c'est quand même quelques uluberlus, ça ne passera pas ». Sauf que l'écriture inclusive et le point médian, c'était la même chose il y a 10 ans, aujourd'hui c'est répandu, la question des pronoms, il y a ne serait-ce que 5 ans, tout le monde pensait que ça n'existait pas, que ça n'existerait pas. Aujourd'hui, il y a une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui la rend possible, et il y a dans plein de plateformes la possibilité de le faire et une incitation, y compris dans des entreprises, à le faire. Il y a plein d'entreprises qui aujourd'hui incitent leurs collaborateurs à préciser quel est leur pronom. Donc ça, tout ça, effectivement, se développe, et même si on a l'impression que c'est anodin, en réalité ça ne l'est pas du tout et ça bouleverse beaucoup de choses. Ça, effectivement, l'écriture inclusive, c'est sans doute la première chose. La deuxième des choses qui est inquiétante, c'est la montée de radicalité. Alors là, pour le coup, une véritable radicalité qui me concerne une toute petite partie de la jeunesse, et pas que la jeunesse, puisque sur les mouvements les plus radicaux, on voit quand même aussi des profils de personnes de plus de 50 ans. Donc, mais il y a une montée de la radicalité, notamment en lien avec les sujets environnementaux, qui fait craindre effectivement aujourd'hui des actions de terrorisme violentes et terrorisme. On a des universitaires qui, depuis des années, mettent de l'huile sur le feu en légitimant le recours à la désobéissance civile, en légitimant le retour à l'action directe. On a des universitaires comme Andreas Malm, qui est un universitaire suédois, mais qui est beaucoup lu en France et qui fait des conférences en France, et qui, en gros, revendique et légitime une certaine forme de violence et la nécessité de la violence pour contrer et pour contraindre le monde à changer. Et donc, lui, par exemple, c'est celui qui milite pour des actions de sabotage, pour des actions de harcèlement, etc., etc. Donc ça, effectivement, on a une idéologie qui se fait, on a des universitaires qui l'apportent, qui créent les concepts qui vont avec, et petit à petit, on a des mouvements, alors essentiellement jeunes au début, mais avec aussi des vieux militants d'extrême gauche qui rejoignent le mouvement et qui vont petit à petit dans des actions de sabotage. Les actions de sabotage, vous en avez eu, hein, c'est là aussi, hein, on n'est pas dans la science-fiction, ça existe déjà. On a eu il y a quelques...
Mais est-ce que ça n'a pas toujours existé, par exemple, quand on parlait de la malbouffe, une certaine époque, c'était vraiment le sujet numéro un. Mmh. Vous aviez des actions de sabotage contre les chaînes de fast-food. Donc, on peut très bien dire qu'avec l'angoisse écologique, d'autres vont aller saboter, je ne sais pas,
polluantes. Il y a toujours eu, hein, ça a toujours existé. C'est un changement d'échelle et un changement de radicalité. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont attaqué un train, bloquer un train, vider une cargaison de plusieurs centaines de tonnes de céréales. Au moment où on sait qu'il y a une crise alimentaire importante, et donc c'est plus une petite action, c'est une action qui est coordonnée pour arriver à bloquer un train et vider en quelques minutes un train en entier. Il faut du monde, il faut que ça soit coordonné. Vous avez eu, il y a quelques semaines, des coupures de câbles de fibres internet, de réseau internet, en plusieurs lieux, à la fois et en même temps. Donc une action coordonnée qui fait qu'on n'est plus du tout dans un petit mouvement où en gros des gens vont se dire je suis contre ça, je le vois, je réagis. C'est plus dans la réaction, c'est dans quelque chose qui est organisé, qui est prémédité et qui s'inscrit dans un schéma en plus qui a été pensé avant. Donc on commence à être dans quelque chose qui se rapproche en tout cas de l'action plutôt politique. C'est plus simplement une réaction spontanée, c'est une action politique, ça peut être même une action terroriste. Et ça, effectivement, il y a un risque aujourd'hui qui est pas neutre. Nous, on le voit d'ailleurs sur les campus, hein, le niveau de violence est en train de remonter. Alors, on n'est pas encore à la violence qu'on a connue dans les années 70, mais malgré tout, ça remonte. On a des mouvements qu'on nomme Antifa. Il y a eu un procès la semaine dernière à Grenoble contre des militants antifa qui avaient agressé d'autres personnes. Là aussi, on est dans une montée de violence qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. Et c'est plus sur la méthode qu'on voit bien qu'on n'est plus dans le même monde. Puisque,
vous avez une réaction aussi, puisqu'au CERU, vous avez quand même des jeunes et des étudiants,
oui.
Olivier Vial. Donc
oui,
ça
oui,
veut
mais,
dire
mais...
qu'il y a une contre-réaction.
Oui, mais en tout cas, il y a une contradiction. Mais ce qui est inquiétant, et où effectivement, je vous dis, il y a un vrai changement de radicalité, c'est qu'avant, on a toujours, vous l'avez dit, la violence, les actions de ce type-là ont toujours existé. En gros, sur les campus, on voyait des militants pendant qu'ils tractaient, ils pouvaient s'échanger, ils pouvaient se bousculer, ils pouvaient faire des choses de ce type-là. Il y a toujours eu de la violence. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas sur les campus que ça se passe. C'est que les militants qui ne plaisent pas aux antifas se font agresser devant chez eux par des gens qui les ont suivis, fliqués, qui savent exactement où ils habitent, qui d'ailleurs les prennent en photo n'importe quand et qui en gros ont monté une sorte de police parallèle. On a un mouvement d'antifas qui s'appelle la Jeune Garde qui en gros revendique le fait de ficher tous leurs opposants. C'est quelque chose là aussi où on change d'échelle et on n'est plus dans quelque chose où c'est une confrontation un peu réactive. On est sur des gens qui préméditent, attendent, mettent des guet-apens à l'extérieur de chez eux histoire de faire monter le degré de violence. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau quand même et on le voit dans d'autres secteurs de la société et sur les questions environnementales notamment. Et c'est aussi une vraie inquiétude. C'est qu'effectivement, il y a une vraie montée d'une radicalité violente et ça, je pense que c'est quelque chose auquel il faut falloir qu'on prête un peu plus attention.
Merci encore Olivier Vial, c'était vraiment passionnant d'avoir abordé ce sujet et cette présentation. On peut avoir tous vos travaux et plus de renseignements via le site internet du CERU, CERU, CERU.fr. Et vous êtes le directeur du CERU,
merci beaucoup.
Olivier Vial, merci.